Eh bien, merci à toute l'équipe de louanges. Merci les frères et les sœurs. Hein, on peut donner une main d'appréciation pour ce qu'ils font, hein? Certainement, on les apprécie. Eh bien, on vous souhaite la bienvenue. Je ne sais pas si vous faites, si vous travaillez tout près du Parlement, mais quelle semaine! Quelle semaine! On a tous été vraiment pris par surprise cette semaine. Ça a fait des manchettes, évidemment, à travers pas mal de monde. On a tous été surpris par les événements cette semaine, par la fusillade et tout ça. Comme l'a souligné un journaliste à la presse, il a dit « L'attaque a eu lieu à la porte des bureaux les plus importants du pays. » Et ça a vraiment montré pendant quelques minutes, les heures qui ont passé, là, ça a vraiment montré notre vulnérabilité. Les gens se disent maintenant « c'est officiel, on vient de traverser une ligne, on pensait que ça arrivait ailleurs, et là, wow! » On vient de traverser une ligne, même si la mère disait en entrevue que oui, et probablement que ce jeune homme souffrait des problèmes psychologiques et tout ça, ils sont en train de regarder ça, mais quand même, on vient de traverser là une ligne. Lors d'une entrevue, d'ailleurs, un politicien en France, Manuel Valls, a exprimé évidemment sa solidarité à l'égard du peuple canadien, mais il a ajouté ceci, il a dit « Le risque zéro n'existe pas en matière de terrorisme. » Puis on l'a bien vu cette semaine. C'était le chaos. D'ailleurs, un étudiant, je devais superviser l'examen d'un étudiant pour une autre faculté à Montréal, puis il était dans la région, et je devais le rencontrer, puis il a m'envoyé une note comme quoi qu'il pouvait absolument pas se rendre. C'était comme, il disait, c'est comme la guerre ici, il y a des chars d'assaut, tout ça, lui travaille près du gouvernement. Et puis... Il dit, c'est absolument impossible, les policiers, les soldats et tout ça, on peut pas sortir. Alors, c'était vraiment comme un deux jours assez intense. Maintenant, quelle ironie de savoir que c'était à la tour de la paix ou qu'il y avait le moins de paix au pays cette semaine. Quelle ironie quand même. Ça montre, et les gens ont peur maintenant, les gens s'inquiètent. On disait à la télévision que les gens marchent dans le coin du Parlement puis regardent un peu autour. Évidemment, hein, ça instaure une certaine crainte, une certaine peur. Mais on vit dans des temps vraiment incertains, et ça, c'est à travers plusieurs pays. Et il n'y a pas que ça, le terrorisme, mais évidemment, il y a d'autres choses qui nous font peur ces jours-ci, où je pense à l'Ebola. On craint évidemment l'épidémie de la fièvre Ebola, près de 10 000 cas atteints. Et les gens vraiment se questionnent sur l'avenir. Et je crois vraiment que c'est l'une des plus grandes luttes que nous avons, ça, la peur puis l'inquiétude. Et c'est particulièrement vrai ces jours-ci avec tout ce qui arrive dans le monde. Mais vous savez que la Bible a quelque chose à dire sur l'inquiétude et sur la peur. La Bible en parle. La Bible ne fuit pas les grandes préoccupations que nous avons. Après tout, Dieu nous a créés. Dieu nous connaît, il sait comment on est fait. Et la Bible adresse ces questions-là. Elle fait face à ces questions-là, face à face, là, directement. La Bible est la révélation de Dieu. Et Dieu veut que l'on apprenne de lui toute cette question-là de la peur, de l'inquiétude et comment trouver la paix. C'est vraiment fascinant de voir, lorsqu'on traverse les évangiles, les quatre premiers livres du Nouveau Testament, et on regarde toutes les affirmations que Jésus a faites au cours de son ministère. Quelqu'un a fait l'observation qu'il y avait environ 125 affirmations directes, c'est-à-dire sous forme d'impératif que Jésus aurait donné. 125 déclarations sous forme d'impératif, impératives. Et quelqu'un a analysé toutes ces 125 affirmations, et c'est vraiment intéressant que lorsque tu fais la liste et tu regardes celle qui revient le plus souvent, donc 21 fois sur les 125, celle qui revient le plus souvent, c'est justement la peur. C'est des affirmations où Jésus dit « Ne craignez point, n'ayez pas peur ». Et il est constamment, à travers son ministère, plus de 21 fois où Jésus va rassurer les gens, va leur dire d'avoir du courage et de ne pas avoir peur. Vraiment intéressant parce que celui qui vient après cela, et il y a un écart assez important, on passe de 21 déclarations de ne pas avoir peur, à 8, donc il y a quand même un bon écart, c'est sur l'amour, aime ton prochain. Oui, évidemment, l'amour, c'est vraiment, c'est ce qui est de particulier au christianisme, c'est ce qui est tout à fait unique. De voir ce qui nous distingue, c'est de voir le message des évangiles mettre tellement d'accent sur l'amour. C'est propre au christianisme, c'est au centre du christianisme. Mais n'est-il pas intéressant que ce que nous allons voir plus souvent qu'autrement dans les évangiles particulièrement sur les lèvres de Jésus-Christ est en rapport, est en regard à la crainte et à la peur et à la paix et au repos. La beauté avec Jésus, c'est que non seulement il parle de la paix, mais il nous montre comment l'avoir. Remarquez ce verset-là que Jésus va dire, c'est un de ses messages tellement important, un verset que nous avons appris, qu'on apprend dans les premières semaines de vie chrétienne, en tout cas certainement, moi, ça m'a particulièrement touché. C'est ce passage dans Matthieu 11 qui dit ceci, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, et recevez mes instructions, dit Jésus, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. » Jésus parle de cette paix qui est vraiment extraordinaire. C'est une paix qui est surnaturelle. C'est pas une paix normale ou artificielle ou superficielle. On parle d'une paix ici très profonde, la paix du cœur, la paix de l'âme. Et Jésus l'offre. Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et moi, je vais vous donner du repos. Jésus dit sans équivoque que le repos pour notre âme, cette paix qu'on recherche tant, se trouve vraiment en lui. Quand on devient un chrétien, quand on croit au message de l'Évangile pour avoir le salut, pour avoir la vie éternelle, on connaît une nouvelle paix. Combien de fois on entend des gens donner leur témoignage quand ils sont venus au Seigneur Jésus, qu'ils ont senti un genre de fardeau tomber sur les épaules, puis ils ont découvert comme une paix, vraiment une paix dans leur cœur. Maintenant, pour mieux comprendre cette paix, un aspect, maintenant il y a plusieurs passages dans les Écritures qui parlent de cette paix-là, mais on va s'arrêter sur un passage en particulier dans la lettre aux Philippiens. C'est Paul qui a écrit cette lettre, la lettre aux Philippiens. Mais juste avant qu'on aille lire ce passage, si vous voulez bien, on va juste se courber et prier. Eh bien, Seigneur, ce matin, nous voulons te remercier pour ce temps ensemble, en famille, autour de ta parole. Merci pour ces bons moments de louange. On te prie que ton esprit puisse nous éclairer et nous enseigner ce matin, alors qu'on s'arrête sur ce thème de la paix. Merci pour ta paix que tu nous offres et que tu nous donnes. On te prie que tu nous éclaires à bien comprendre ce message que nous trouvons dans la lettre aux Philippiens. Parce qu'on te le demande au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Alors, Philippiens chapitre 4, si vous avez votre Bible avec vous, vous pouvez venir me rejoindre certainement. Alors, Philippiens chapitre 4, verset 4, et on va lire jusqu'au verset 9. Alors, du verset 4 jusqu'au verset 9. Maintenant, il faut comprendre que Paul est en prison à ce moment-là, là. D'accord? Alors, je ne sais pas si vous êtes familier avec les Écritures, sinon, juste vous expliquer un peu le contexte. L'apôtre Paul, et c'est ce qu'on appelle ici les lettres de Paul, les lettres de prison. Parce que l'apôtre Paul, lorsqu'il était en prison, a écrit certaines lettres, et voici l'une d'elles. Donc, il faut comprendre le contexte. L'auteur, l'écrivain ici, est en prison lorsqu'il donne ce message-là. C'est important parce que ça fait une grosse différence, parce que vous allez voir comment ça commence déjà au verset 4. Voici ce que l'apôtre Paul, en tout cas, s'il y a quelqu'un qui a vraiment le droit de nous donner un message comme celui-ci, c'est vraiment lui, parce qu'il est à l'opposé de ce qui pourrait nous procurer de la joie et de la paix, alors qu'il n'est même pas certain s'il va survivre. Il est en prison, peut-être qu'il va finir par la peine capitale. Et c'est lui qui nous donne ce message-là. Évidemment, c'est inspiré du Saint-Esprit. Et voici ce qu'il dit au verset 4. Ce prisonnier qui nous dit, réjouissez-vous toujours. Imaginez, réjouissez-vous toujours. C'est lui qui nous dit ça, là. Alors, c'est possible. Il y a une joie qui est surnaturelle, qui vient du Seigneur, et elle ne dépend pas des circonstances, et c'est la même chose avec la paix. Alors, l'apôtre Paul dit ceci, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. D'accord? Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, verset 7, la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé et tout ce qui mérite l'approbation. ce qui est synonyme de qualité morale et de ce qui est digne de louange. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, mettez-le en pratique, et le Dieu de paix sera avec vous. Maintenant, que nous enseigne ce passage sur la paix? La Bible dit que la paix, voici ce que c'est la paix. La Bible, la façon que la Bible va décrire la paix. La paix est la confiance que Dieu est au contrôle de notre vie. C'est là que ça se joue, là. La paix, c'est la confiance que Dieu, au bout du compte, quoi qu'il nous arrive, indépendamment des circonstances dans lesquelles on peut se trouver, que Dieu est vraiment au contrôle de notre vie. Maintenant, le contraire de la paix, c'est l'anxiété, c'est l'inquiétude. Alors que la paix concerne la stabilité, la fermeté, le contraire, c'est l'anxiété, l'inquiétude, qui veut dire littéralement d'être tiré d'un bord ou de l'autre. La paix tient à la confiance que vous donnez à Dieu de contrôler votre vie. Philippiens, le passage qu'on vient de lire au verset 6 dit ceci, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. » Et qu'est-ce que ça dit, ça, finalement? C'est de faire confiance au Seigneur. Tourne-toi vers le Seigneur. Lorsque tu vis dans l'inquiétude, tu te retournes vers le Seigneur, tu fais connaître tes besoins à Dieu, avec des supplications et cet esprit de reconnaissance et d'action de grâce. Ne vous inquiétez de rien, dit verset 6, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu va en résulter. Comment avoir la paix? C'est en présentant nos requêtes à Dieu par la prière et les supplications, tout en étant reconnaissant. Et ça, c'est la clé, c'est le secret, ça, ici-là. D'accord? Toutes nos requêtes doivent être présentées avec cette attitude de reconnaissance, avec des merci. En d'autres mots, avec reconnaissance et action de grâce. Maintenant, qu'est-ce que ça signifie, ça? Comment être reconnaissant pour une chose que j'ai même pas encore reçue? Comment être reconnaissant pour une chose que vous venez juste de demander? Tu demandes quelque chose au Seigneur, puis tu dis merci Seigneur. Tu as une attitude de reconnaissance et d'action de grâce. Tu n'as pas encore reçu ce que tu as demandé, puis déjà tu es en train de remercier pour ça. Et qu'est-ce que ça laisse entendre, ça, ici? Eh bien, ça, c'est la clé, mes amis. C'est le secret. C'est le secret pour avoir de la paix. Vous remerciez Dieu avant même de faire votre demande à Dieu, parce que ce que vous êtes en train de dire avec un cœur reconnaissant et avec action de grâce et remerciement, ce que vous êtes en train de dire au Seigneur, c'est ceci. Seigneur, quoi que tu fasses avec ma requête, c'est bon. C'est gros, là. Quoi que tu fasses avec ma requête, avec ce que je te demande, c'est correct. Je l'accepte et je te remercie. Ce que ça laisse transparaître, c'est que tu as confiance dans ce Dieu infiniment sage qui sait ce qu'il fait avec ta vie. Ta vie est entre ses mains, il est au contrôle et il va réagir ou répondre selon ce qu'il sait est le meilleur pour moi. D'accord? Et c'est ce que tu es en train de dire au Seigneur lorsque tu fais ta requête, tu présentes ta requête avec action de grâce, c'est ce que tu es en train de dire. Seigneur, quoi que tu fasses avec ma requête, c'est bon. Je te remercie à l'avance pour ce que tu vas faire. Quoi que tu fasses, si je suis en train de te demander quelque chose, si tu juges que c'est pas le temps pour moi d'avoir cela, je te remercie, Seigneur. Si tu choisis, je te remercie. Si tu me donnes quelque chose qui est même tout à fait à l'opposé de ce que je te demande, même si c'est difficile. Parce que là, on joue pas à l'autruche, là. On regarde les psalmistes, les auteurs des psaumes. Il ne se cache pas devant la réalité. On ne parle pas de faire l'autruche, là, puis faire comme si rien n'était. Mais non, c'est sérieux. Et tu sais, le Seigneur le sait. Le Seigneur veut pas qu'on soit artificiel puis qu'on joue un jeu. Non, même Seigneur, si c'est difficile, même si honnêtement, je ne suis pas heureux si tu choisis de faire ça, tu sais que des fois, tu pries, tu dis, merci. Seigneur, à quelque part, en dedans de toi, genre, bon, ouais, j'espère que tu vas me donner quand même. Et le Seigneur sait tout ça. Il connaît notre cœur. Le Seigneur veut voir des disciples qui sont vrais. Il veut avoir des gens qui sont intègres. Et c'est tout à fait correct de dire au Seigneur, « Seigneur, honnêtement, moi, j'aimerais bien avoir ça. » Tu sais, c'est sûr, moi, là, cet été, il m'est arrivé quelque chose, une affaire, tout à fait une surprise, tu sais. Je suis rentré, en plein milieu de la nuit, j'ai eu comme un pincement au cœur. Là, mon ami. Tu sais comment c'est? Je commence à avoir un pincement au cœur. Ça m'était déjà arrivé, je pensais que c'était comme peut-être une indigestion, quelque chose. T'sais. Fait que là, un gros pincement, puis ça n'arrêtait pas, un serrement à la poitrine. Là, je dis, puis là, tu étais assis, puis je pensais que c'était pour partir. Et là, tranquillement, là, tu sais, l'angoisse embarque. Puis là, je commençais à avoir des drôles de feeling dans la bouche et tout ça, puis les mains moites, puis aïe, 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 qu'est-ce qui se passe? Fait là, je disais à ma femme, je disais, chérie, appelle le 911, t'as 4 heures dans la nuit. Je rentre d'urgence à l'hôpital, font un paquet de tests et tout ça, et Dieu merci, il n'y a absolument rien au cœur. Fait que. Et là, on me dit, là, ils ont fait des tests et tout ça, et il n'y a absolument rien avec le cœur. Ils m'ont fait des tests, le tapis roulant, puis ça, courir, puis bon. Fait que, il dit là, j'ai dit, c'est quoi ça? Là? J'ai dit, tout d'un coup, ça m'arrive une autre nuit, là, qu'est-ce qui va arriver? Ben, il dit, je sais pas c'est quoi, c'est peut-être le stress. Ben voyons, non, le stress. Non, pas de stress. Je ne veux pas reconnaître que tu es stressé, mais des fois, il y a des affaires dans la vie qui te stressent. Voyons, honnête, ça te stresse. Puis après ça, j'ai dit, ça se peut-tu que ce soit le reflux gastrique, quelque chose du reflux? Ah, peut-être, tu sais, on appelle ça a une crise thoracique et tout ça. OK, peut-être, là, puis, ah, d'accord. Hey, le Seigneur, fait que, tu sais, moi, j'ai passé 3 heures, ça a l'air. Ça a l'air que j'ai 3 heures et demie environ, ils m'ont laissé tout seul, parce que là, ils savaient pas c'était quoi. Parce que là, ils ont vérifié, puis ils ont vu des petites affaires au poumon. Ah, c'est peut-être des séquelles de ton passé, une ancienne infection, je sais pas c'est quoi. Fait que, là, imagine-toi donc. Là. Regarde, ils me disent ça, là, je critique absolument pas. Ils sont en train de réfléchir, d'explorer l'affaire. Là, j'étais assis dans cette petite pièce à l'urgence, puis ils disent, alors, c'est pas, ça peut être n'importe quoi, comme ça peut être rien. Ça peut être une affaire comme dans ton passé, une petite tache, tout ça. Ça a l'air d'être ça, là. Et puis, je vais avoir la réponse vendredi. Puis, en tout cas, aucun symptôme. Fait que ça, it looks good, comme on dit en anglais. Fait que le docteur a dit, écoute, fais continue à faire ce que tu fais, jogging et tout ça. Fait que là j'ai passé une couple d'heures. Le gars a dit, ça peut être un paquet d'affaires. Ça peut être une ancienne infection. Ça peut être la tuberculose. Ça peut être l'hépatite. Ça peut être le cancer, tu sais. Puis, là, t'es dans cette pièce-là. Ça peut être le cancer. Et honnêtement, là j'ai vraiment compris comment François a dû se sentir lorsqu'on lui a donné la nouvelle, là. J'ai tu sais, l'annonce qu'on voit à la télévision là, des gens qui reculent quand on dit que tu as le cancer, là, je l'ai vécu. Là, j'étais dans le bureau, je dis, aïe, là, t'as comme un fardeau sur les épaules. Là, évidemment, tu commences à briller, tu sais. Puis là, t'as comme tout un sentiment de vouloir régler les affaires. Là, c'est comme si, aïe, là, OK, écoute, faudrait que, là, je pensais à ma femme, comment est-ce que tu d'un coup, tu sais. Puis là, tu vois, il y a un paquet de scénarios. Ça n'a pas l'air de ça pantoute, là, ça va être vendredi, parce que je devrais avoir des symptômes et tout ça, mais j'en ai pas. Alors, Dieu merci. Mais pendant 3 heures et demie, là, j'étais sous l'impression que j'avais le cancer. Puis là, je faisais ma prière, puis je priais. Puis j'ai analysé ma prière. Puis honnêtement, je voulais pas que ça soit ça. Puis j'ai dit, Seigneur, honnêtement, hey, je veux pas que ça soit ça, Seigneur. Là, honnêtement, j'ai dit, Seigneur, c'est correct, au bout de ligne, puis là, tu sens un fardeau sur ses épaules. Puis tu dis, Seigneur, si c'est ça, c'est ça. Mais je vous dis, là, j'ai eu des émotions. Là, mon ami, les émotions, c'était tout à l'envers. Là. Et OK, c'est correct, Seigneur. Je dis, je te demande, j'ai demandé d'avoir un témoignage, tu sais, comme François. Je vais être comme François, je vais avoir un beau témoignage. Je ne vais pas commencer à... Et là, tu commences à penser à toutes sortes d'affaires. Mais honnêtement, pendant 3 heures et demie, là, si, t'as raison. Le Seigneur veut que tu sois honnête. Là. Il ne veut pas commencer à dire, non, c'est pas grave, tu sais, t'as cancer, tout est beau, je suis correct. C'est pas ça que le Seigneur est en train de nous dire ici. Le Seigneur est en train de nous dire que quoi qu'il arrive, mets ta confiance dans le Seigneur. Même si ça va être tough, puis tu n'auras peut-être pas le résultat auquel tu t'attendais, peut-être que tu auras des mauvaises nouvelles, et ça arrive, on en a ici et là, des mauvaises nouvelles. Tu sais, comme ma fille est partie en Ukraine en ce moment, puis elle est partie pour adopter, et là... Ils ont un couple en vue, ils devaient avoir 4 ou 5 enfants qu'ils voulaient adopter, ça fonctionne pas. Mais s'ils refusent ceux-là, l'autre option, et peut-être même la seule option, ça tombe à Donetsk. Et Donetsk, il y a des morts, ça, c'est dans la région de la guerre, là, puis ils te font signer un papier. Bon, je dégage le gouvernement de toute responsabilité s'il nous arrive de quoi. Là, je suis là, je suis pas père, je dis, hey, tu sais. Ouais, mais c'est pas dans la même région, tu sais. Joël dit, non, c'est pas dans la même région, puis ça vaut pas s'en faire, puis tout, c'est pas tout. Eh, ben, je m'en fais, là, c'est comme, t'es pas mal proche, là, tu sais. Fait que là, tu vis ces affaires-là, puis le Seigneur veut que tu sois honnête. Il veut pas qu'on joue du jeu, là, puis qu'on fasse Non, c'est comme préoccupant avec des affaires qui nous arrivent dans la vie. C'est préoccupant. Le Seigneur veut que tu sois honnête avec lui. Mais qu'au bout de ligne, tu retrouves la paix.
de savoir, Seigneur, je sais toutefois, au bout du compte, que quoi qu'il nous arrive, même si ça ne fait pas notre affaire, je sais au bout du compte que tu es au contrôle, tu es souverain, tu sais exactement ce que tu fais. C'est là que tu vas conserver, tu vas avoir la paix, là, vois-tu? C'est là que ça se trouve. C'est dans cette confiance-là. C'est dire, ouais, ça ne fait pas mon affaire. Je vais être avec toi, Seigneur. Mais au bout du compte, je sais que je peux te remercier parce que je sais que tu vas t'occuper de moi. Je sais que ma vie est entre tes mains. Remercier Dieu à l'avance pour ce qu'on lui demande, c'est vraiment le secret pour avoir et conserver la paix. C'est d'avoir confiance dans la sagesse infiniment grande, beaucoup plus grande que la mienne, de Dieu. Maintenant, il y a une différence, et ce qu'on va voir dans les Écritures, c'est que tu vas avoir une différence entre avoir de la paix avec Dieu et la paix de Dieu. Vois-tu dans un passage du Nouveau Testament qu'on appelle Romains, c'est encore Paul qui écrit cette lettre-là, Paul aux Romains, il dit, « Ainsi donc, déclarés juste sur la base de la foi, nous avons la paix avec Dieu, par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ. Grâce à Jésus-Christ, nous pouvons avoir la paix avec Dieu. » La Bible dit qu'en raison de notre péché, notre cœur pécheur, tellement centré sur soi, ce cœur qui veut repousser Dieu, qui veut tasser Dieu, qui veut mettre Dieu dans le coffre arrière et le sortir juste quand on a des problèmes. Cette nature pécheresse que nous avons, lorsque nous avons cette force en nous qui cherche à avoir la gloire plutôt que de la donner au Seigneur, cette nature pécheresse, à cause de cela, il y a un mur qui s'est créé entre nous et Dieu. Dieu est en colère contre nous, pécheurs. Et justement, c'est juste cette colère-là. C'est une colère qui est juste. Mais Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin de prendre notre place et de prendre notre châtiment, le châtiment que nous autres on méritait. Il l'a pris sur lui à la croix pour nous sauver, pour nous pardonner de nos péchés, pour nous justifier devant lui, pour effacer toutes les fautes que nous avons commises. Vois-tu, il y a des gens qui veulent baisser la sainteté, la colère de Dieu, mais c'est de faire une erreur. Parce que dès que tu baisses la sainteté, la colère qui est juste de Dieu, tu baisses aussi son amour. Et Dieu est parfaitement juste, parfaitement saint, et il ne peut tolérer le péché. Il fallait qu'il juge le péché. Mais en même temps, il y a tellement d'amour qu'il envoie son Fils sur la croix prendre notre place ici sur la croix. Maintenant, c'est ce que Romain nous dit dans ce verset. Ça, c'est d'avoir la paix avec Dieu. Lorsque tu ouvres ton cœur au Seigneur Jésus, que tu places ta confiance en Christ et que tu crois que Jésus, tu crois là, que Jésus-Christ est allé sur la croix à cause de toi. Tu avais été la seule personne au monde, il le répète quand même. C'est-à-dire que je le rends personnel le message. C'est à cause de moi. Il est allé à la croix à cause de mes péchés. Lorsque tu places ta foi en Jésus-Christ comme étant ton sauveur, qui a pris ta place, ton substitut, là, à ce moment-là, il te donne la vie éternelle. Et il y a une paix qui s'instaure entre toi et Dieu. Tu as fait la paix. Il y a une paix qui est là avec Dieu. D'accord? De ne pas recevoir le châtiment, le jugement dernier qui s'en vient pour tous ceux qui rejettent Jésus-Christ. Tu es exempt de ça. C'est pour ça que ça dit dans les Écritures que ceux qui sont en Jésus-Christ n'ont pas de jugement, ce jugement éternel. Ça, c'est la paix avec Dieu. Mais la Bible va parler d'une autre paix, c'est la paix de Dieu. Parce qu'une fois que tu deviens chrétien, il y a toutes sortes de choses qui se passent dans notre vie, puis on peut devenir inquiet, anxieux même. Et nous avons constamment besoin de retrouver cette paix, la paix de Dieu. Et Philippiens parle de cette paix. Philippiens 4:7 dit ceci, « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, qui surpasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. » Alors, quelle est la différence? Maintenant, la paix de Dieu, la paix avec Dieu, les deux sont distincts, mais ne sont jamais séparés, évidemment. La paix de Dieu, c'est l'état de ton cœur qui est confiant, stable et solide, quoi qu'il arrive, et quelles que soient les circonstances. Maintenant, tout le monde veut cette paix-là. Que tu sois chrétien ou pas, tout le monde recherche au fond d'eux cette paix-là. Tout le monde cherche comment trouver la paix, rester stable, solide, confiant, même devant les circonstances difficiles, devant les épreuves. On veut tous cette paix-là. Et les gens ne cherchent pas cette paix-là nécessairement en Dieu. Plein de gens essaient de trouver cette paix-là, trouver le secret pour rester en paix, particulièrement dans ces moments, dans les moments difficiles. Tout le monde, ça. Que tu sois riche, que tu sois pauvre, Les gens sont même prêts à dépenser des fortunes pour avoir cette paix-là. D'ailleurs, il y a un article de cet artiste Simon Cowell, vous connaissez? Simon Cowell, qui était l'ancien juge d'American Idol, qui est X-Factor, multimillionnaire. Multimillionnaire, riche, c'est la gloire, la vedette, il y a tout ce qu'une personne pourrait espérer dans le monde. Et pourtant, il a raconté à un proche, à l'un de ses amis, qu'il voulait arrêter les pilules, l'alcool, et il a dit ceci. Il dit, j'ai désespérément besoin de paix. Imagine-toi, un gars qui a tout, un gars que, tu sais, les gens voudraient avoir ce qu'il a, mais il dit, j'ai désespérément besoin de paix. Alors, c'est certainement pas l'argent, ni la gloire et tout ça, la santé, il y a tout ça, lui. Mais il dit, j'ai désespérément besoin de paix. Il n'y avait pas de paix. Il n'y a pas de paix dans son cœur. Et il a tout à fait raison. Nous avons tous besoin de paix. C'est le moyen de le trouver. Et c'est là la différence. C'est en Dieu. Nous avons besoin de Dieu. Et c'est ce qu'on découvre dans les Écritures. Nous avons besoin d'être en paix avec Dieu. Nous avons besoin de la paix de Dieu. Voici le problème. Si on ne va pas à Dieu pour avoir la paix, si on essaie d'avoir la paix de façon superficielle, pour avoir la paix, certaines personnes, voici ce qu'ils vont faire. Ils vont essayer de s'endurcir tranquillement. Ils vont essayer de s'endurcir pour ne pas, pour être moins touchés par ce qui les affecte autour, par tout ce qui se passe autour. Donc, ils vont tranquillement essayer de se distancer de ce qui se passe. Alors, ils vont prendre une certaine distance, ils vont prendre un genre de, ils vont s'emmurer, ils vont se protéger pour ne pas être trop affectés, touchés. Je l'ai vu maintes et maintes fois. Mais ça, c'est une paix qui est comme, fabriqué artificiellement, là. C'est fragile. Il donne l'impression d'avoir la paix, mais pourquoi se contenter de l'imitation, d'une imitation de paix, d'une paix superficielle, lorsqu'on peut avoir la paix de Dieu, une paix qui surpasse toute intelligence, nous dit la parole de Dieu. Alors, pourquoi aller à la vraie source de paix, pourquoi aller à Dieu pour trouver la paix? Bien, parce qu'avec Dieu, nous recevons non seulement une paix surnaturelle, qui dépasse toute intelligence, inexplicable, mais en plus, elle vient avec un tas d'autres belles qualités puis de forces. Ça vient ensemble. La Bible parle du fruit de l'esprit. Puis c'est au singulier. C'est un fruit avec plusieurs éléments à l'intérieur. On parle d'un fruit avec plusieurs éléments. Par exemple, on a lu dans Galates 5, on t'en a fait une série dans ça, sur le fruit de l'esprit. Et le fruit de l'esprit, le fruit, c'est au singulier, le fruit, c'est l'amour, la joie, la paix. Mais la paix vient aussi avec l'amour, la joie, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Vois-tu, avec la paix de Dieu vient également l'amour de Dieu. La paix de Dieu vient aussi avec la joie de Dieu, qui est surnaturelle, cette joie parfaite dont Jésus parle, qu'on a vu la semaine dernière, qui ne dépend pas des circonstances. C'est l'apôtre Paul qui est en prison, qui dit « Réjouissez-vous toujours », je le répète, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». L'apôtre Paul qui exhorte les autres, qui encourage les autres à se réjouir malgré les circonstances, est lui-même en prison. Et c'était pas des prisons comme aujourd'hui, même si c'est difficile aujourd'hui de vivre dans les prisons, c'était pas comme aujourd'hui, là. C'était tough. Puis il savait même pas si c'était pour mourir ou vivre ou subir... Lui-même, hein, a été fouetté, tout ça. Il a subi toutes sortes de persécutions, même, à cause de sa foi. Et pourtant, lui-même va dire, réjouissez-vous. Et la paix de Dieu vient avec la patience, elle vient avec la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Maintenant, certaines personnes peuvent essayer de trouver la paix en s'endurcissant, en devenant cynique ou apathique. C'est une façon d'endurcir son cœur au point d'avoir moins de soucis ou de préoccupations par ce qui se passe autour. Ça peut donner l'impression d'avoir la paix, mais il va manquer autre chose. D'autres personnes peuvent avoir de la joie et de l'humilité, mais il manque de paix. Vous avez d'autres personnes qui donnent l'impression d'être au contrôle, vraiment d'être au-dessus de leurs affaires. Ils projettent l'image d'une personne qui est en paix, qui sont stables, qui sont solides, du roc. Mais quand il est question de la joie, quand il est question de sensibilité, de compassion, de douceur, de miséricorde, de l'amour, là, on la voit moins. Vous savez pourquoi? Parce que seulement le Saint-Esprit de Dieu peut créer toutes ces qualités en même temps. Merveilleux, hein? En même temps. D'ailleurs, Jonathan Edwards, dans un de ses livres qui s'appelle « Affection religieuse », a dit ceci. Il dit vraiment intéressant. Il dit « La seule façon de savoir si l'amour, la joie, la patience, la bonté et toutes ces choses ne sont pas de la contrefaçon, c'est pas de l'imitation. La seule façon de savoir, c'est qu'elles arrivent en même temps. » D'ailleurs, regarde une personne qui vient au Seigneur Jésus-Christ, habituellement. Oui, je sais qu'il y a des expériences un peu différentes, tout ça. Mais habituellement, ce qui va arriver, c'est que tu vas voir cette personne-là, elle va découvrir une joie nouvelle, une paix nouvelle, elle commence à aimer le monde, Alors qu'avant, être en colère. Moi, c'est ça qui est arrivé avec moi. Hein. J'avais de la colère et tout ça avant de venir au Seigneur, mon ami. Puis là, je commençais à aimer les gens. Là. Ça, il nous change. Le Seigneur nous change. C'est la façon de déterminer si l'une ou l'autre de ces qualités est produite par la puissance du Saint-Esprit, dit Edwards, puis qu'elle ne résulte pas d'un effort humain. C'est surnaturel. Seul le Saint-Esprit peut créer ses qualités en même temps. Seul le Saint-Esprit peut créer une personne qui est à la fois émotionnelle, douce, aimante, sensible, tendre, généreuse, qui se maîtrise, fiable, intègre, mais aussi solide comme du roc et qui est en paix. Moi, je vous ai donné l'exemple. Je ne donnerai pas toute la description de cette famille, mais quand je pense à une famille qui est venue au Seigneur, séparée pendant 11 ans, les enfants qui vivaient chacun de leur côté, tout ça, et quand la femme est venue au Seigneur, alors que le mariage allait vraiment pas bien, pendant bien des années, ils sont séparés pendant 11 ans. Imagine-toi, tu refais ta vie après 11 ans. Et quand elle a accepté le Seigneur, son cœur a commencé à voir la vie différemment. Elle a commencé à avoir une vision à travers la lentille de la parole de Dieu. Elle a commencé à voir le monde différemment et tout ça. Elle a carrément téléphoné de son mari. Puis elle a dit, écoute, qu'est-ce que tu dirais si on venait ensemble? Après 11 ans de temps, son mari ne savait même pas qu'est-ce qui se passe. Son mari ne comprenait pas. Et ils sont venus ensemble. Moi, j'ai tout vu ça. Là. J'étais là à Laval, cette famille-là, on les a toutes baptisées, tout ça, c'était tout beau ce qui se passait là. Mon ami, c'est un miracle. Et tous les enfants sont venus, ah, c'est vraiment beau. C'est un fruit. Alors, c'est un fruit, donc ça pousse, évidemment, ça pousse. On le voit à différents niveaux et intensités, mais elles sont présentes, elles sont là, elles poussent ensemble. Et la paix, c'est vraiment placer ta confiance dans le Dieu qui est parfaitement sage, parfaitement au contrôle de ta vie. C'est le contraire de l'inquiétude et de l'anxiété. Maintenant, voyez-vous le mot « inquiétude » au verset 6, le mot « ne vous inquiétez de rien ». L'anxiété peut être traduite aussi par l'anxiété. Ça signifie littéralement d'être en pièces, d'être en morceaux, en petits morceaux dans le fond. On a l'exemple avec Marthe et Marie. Regardez bien ce qui va se passer ici dans cette dynamique-là. Marthe et Marie qui vont inviter Jésus chez eux. Ils vont recevoir à manger. Et Jésus est là avec les disciples. Et Marie va s'installer tout près de Jésus pour l'entendre. Imaginez, vous avez le Fils de Dieu. Vous avez le Fils de Dieu qui est là dans la maison et qui va enseigner, qui donne la parole de Dieu. Alors les disciples s'installent, veulent boire. Marie s'assoit à côté. Ils veulent boire chacune des paroles de Jésus-Christ. Il n'y a rien au monde qui va déranger ce moment précieux riche d'être avec Jésus-Christ. Là. Il n'y a rien au monde, il y a un tremblement de terre, il n'y a rien qui va déranger Marie. Absolument aucun souci ou préoccupation des autres affaires. Ce qui est important, c'est uniquement Jésus-Christ. Là. Ses pensées sont uniquement centrées sur Christ. Alors que Marie, elle, va s'occuper d'un paquet de choses, va s'occuper de la nourriture et tout ça, mais c'est pas juste qu'elle s'en occupe, elle se préoccupe aussi. Elle est préoccupée, elle est agitée, énervée, et à un moment donné, Jésus va non, c'est d'ailleurs, c'est elle qui va aller voir Jésus-Christ. Elle va aller voir Jésus, puis elle va même non seulement critiquer sa sœur, parce que c'est sa sœur, Marie, elle va critiquer non seulement sa sœur, mais elle va critiquer Jésus qui fait rien, puis qui allait se faire. Pourquoi elle va laisser Marie assise à écouter la parole quand il y a tellement de bouffe à préparer, là? Tu sais comment c'est? Tu as reçu un paquet d'hommes ensemble dans la maison, là, si, trop, là, c'est comme... Là, elle est préoccupée. Et voici ce que Jésus va dire. Et ça, c'est vraiment clé pour nous autres, parce que tranquillement, ça va ouvrir une porte à nous faire comprendre exactement comment avoir cette paix-là. Et voici ce que Jésus va dire. Il dit dans Luc 10, « Marthe était affairée aux nombreuses tâches du service. Elle survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? » Imagine-toi, non, c'est une méchante critique. En d'autres mots, tu t'en fous? Si tu me regardes travailler puis courir partout dans la maison, préparer les chips, le 7-Up et tout ça, là, puis tu t'en fous, hein? Ça te fout? Tu t'en fous? Ça te dérange pas? Ça te dérange absolument pas que je travaille comme une folle, puis ma sœur fait absolument rien, t'assises, puis elle t'écoute parler. Alors, regardez bien ce que Jésus va répondre. Maintenant, ça, c'est vraiment clé ici. C'est pas qu'elle faisait de la nourriture. Jésus a vu son cœur. Jésus voit le cœur. Et voici ce qui se passe. Et elle dit, Seigneur, est-ce que ça te fait absolument rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de venir m'aider. Donne-lui un ordre de venir m'aider. D'accord? Dis-lui de venir m'aider, là. Jésus lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Mais une seule est nécessaire. Marie a choisi la bonne part. Et je n'enlèverai pas ça, dans le fond. Les deux mots utilisés ici suggèrent que Marthe était très agitée, préoccupée, avec plein de choses en tête. Le mot signifie avoir des pensées divisées, être distraite par plein de choses, préoccupée, des soucis. Marie, de son côté, avait juste une chose en tête, écouter la parole de Dieu. Elle avait la visite du Fils de Dieu qui est là dans son salon. Puis moi, dire de quoi? Il n'y a rien de plus important que de m'asseoir à côté de Jésus et boire à ses lèvres les paroles qu'il va donner. Voici le Fils de Dieu, le Messie tant attendu qui est là dans la maison et elle veut boire chacune des paroles. À ce point-ci, tout ce qui est important, c'est d'être avec Jésus-Christ. Que la maison soit en envers, qu'il y ait des tremblements de terre, que tout tombe autour de nous autres, c'est même pas important. Ce qui est important, c'est une personne, c'est lui. Mais Marthe, elle, est préoccupée dans sa tête. Elle a un paquet de choses. Et Jésus lui répond, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Mais une seule est nécessaire. À l'autre bout, une seule chose. À ce point-ci, dans ta vie, là, il devrait y avoir juste une chose. Puis dans le fond, ça devrait être toute ta vie comme ça. Marie a trouvé la seule chose qui compte. Marie n'a une seule chose en tête. Alors Jésus dit à Marthe, Marthe, Marthe. Marie n'a qu'une seule chose en tête, alors que toi, tu en as une centaine. Tu as une centaine de choses, parce que ça veut dire diviser, les pensées sont divisées, il y a un paquet de pensées dans sa tête, elle pense à quelque chose. Ce que Jésus est en train de lui dire, en fait, c'est ceci. Il dit, écoute, Marie a juste une chose en tête, toi, tu en as des centaines en ce moment dans ta tête. Centaines. Jésus est en train de lui dire, en fait, je suis content de faire partie des centaines d'affaires qui sont dans ta tête. Je suis dans la gang. Je suis là, mais en fait, c'est gentil, Matt. Je suis content de faire partie des centaines d'affaires qui te préoccupent dans tes pensées, mais il y a un problème, Matt. Et ton problème va durer aussi longtemps que je ne serai pas la chose dans ta tête, la priorité dans ta vie. Vois-tu? Matt montrait par son agitation et son attitude, Jésus voyait au cœur, il voyait ce qui se passait, elle avait un paquet d'affaires de préoccupations dans sa tête et Jésus était en train de dire, regarde, tu ne m'as pas placé là dans ta vie. Là. Moi, dans tes pensées, je fais juste partie de tes pensées. Et combien de gens, c'est comme ça? Que tu vas parler à des gens, tout ça, et Jésus fait partie, ouais, je crois que c'est le Fils de Dieu. Ben oui, mais Jésus n'est pas à la première place dans notre vie. Est-ce que Jésus est en train de dire à Marthe, c'est, vois-tu, voici ce qui se passe. Le problème, c'est que je ne suis pas au premier, ta priorité dans ta vie. Si je n'occupe pas la première place dans tes pensées, je ne suis pas le premier dans ta vie, tu ne pourras jamais avoir la paix de Dieu. L'opposé de l'anxiété, c'est de n'avoir qu'une seule pensée, juste une seule pensée. Et l'opposé de la paix, c'est l'inquiétude, être tiré de toutes les barres. Philippiens 4:8 dit ceci, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, etc. Alors, portez vos pensées. Concentrez-vous. Et c'est là qu'on s'en va, là. C'est ça qu'on a besoin de réaliser, qu'on a besoin de se concentrer, de réfléchir à Jésus-Christ et le mettre à la première place dans notre vie. Ensuite, Paul dit, ce que vous avez appris, reçu, entendu de moi, ce que vous avez vu en moi, mettez-le en pratique. La paix nous vient de la même façon que la joie. Elle vient par cette assurance, de l'assurance du salut, d'être proche de Dieu. Regardez ce que Paul nous dit. Il dit, portez vos pensées. En d'autres mots, concentrez-vous. Et ça, on voit ça souvent dans les Écritures. C'est ce que Jésus va dire. Par exemple, dans un contexte où il parle de l'inquiétude, dans Matthieu 6, par exemple. Et ce qu'il va dire dans Matthieu 6, verset 25, il dit, ne vous inquiétez pas de votre vie, de ce que vous mangerez, ni de votre corps, de quoi vous serez vêtus. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée de dur à ta vie? Et ça continue au verset 28 qui dit ceci, et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Et regardez bien le mot qui s'en vient. Considérer. En d'autres mots, analyse, réfléchis, porte tes pensées sur. Et c'est ça que nous avons besoin. On a besoin de nous concentrer sur Dieu. Ils ont regardé, considérer comment croissent les lys des champs. Ne vous inquiétez donc point, ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens, c'est-à-dire les non-croyants, qui les recherchent. Votre Père, c'est la sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez pas donc du lendemain. Le lendemain aura soin de lui-même. Chaque jour suffit sa peine. Ce que Jésus est en train de dire, si vous vous inquiétez, c'est que tu ne penses pas. Tu n'es pas en train de réfléchir à la bonne personne, à la bonne chose. Une autre façon de le dire, c'est que tu as deux options, deux choix. On a déjà dit ça, puis il faut le répéter. Tu peux soit écouter ton cœur qui te parle ou lui parler. S'il t'arrive un pépin demain, ton cœur va te dire quelque chose. Tout de suite, la réaction, c'est que tu vas te dire tout de suite. Là, il y a une parole qui va te dire dans toi. Là, on se parle, hein? Là, il y a une parole qui va te dire quelque chose. Et ça va dire quoi? Ça va dire misère, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Là, tu as deux choix à ce moment-là. Deux choix. Tu peux soit t'asseoir et écouter ce que ton cœur te dit, puis là, tranquillement, plus tu y penses, plus tu vas t'inquiéter. Ou tu peux parler à ton cœur. Tu peux te parler pour corriger. On le voit avec David, par exemple, dans le psaume 42. On voit David qui est agité, il y a plein de choses qui se passent. David est découragé, il dit, au verset 3, psaume 42, 3, il dit, « Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, imagine-toi. » Il pleurait jour et nuit avec ce qui se passait. L'ennemi était après lui. Il dit au verset 7, « Mon âme est abattue en moi. » Et verset 10, il dit, « Je marche dans la tristesse, sous la pression de l'ennemi. On m'insulte. » Alors, qu'est-ce qu'il a fait pour se sortir de son découragement? Il est déprimé, découragé, il est écrasé, ça va vraiment mal, les circonstances, ça va vraiment pas bien. Alors, qu'est-ce qu'il a fait pour s'en sortir? Il a commencé à se parler, à se prêcher. Et on lit d'ailleurs ce verset-là, vraiment intéressant, il se parle à lui, là. Il dit, pourquoi t'as battu mon âme? Il se parle. Pourquoi tu t'abonnes même? Pourquoi tu te laisses décourager comme ça? Il se parle. Est-ce que tu te parles de temps en temps? Il se parle. Puis il dit, pourquoi t'as battu mon âme? Et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu. Donc, il se dit quoi faire. Hein? Des fois, en couple, on dit à l'autre quoi faire. On dit, tu devrais. Ben, sais-tu quoi? Dis-toi quoi faire. Dis-toi, parle à toi. Tu vas avoir un gros impact dans ta vie de couple. Parle à toi. Et David se parle, se prêche. Puis il dit, pourquoi t'as battu mon âme et j'ai mis tout au-dedans de moi? Espère en Dieu. Mets ta confiance dans le Seigneur. Car je le louerai encore, il est mon salut et il est mon Dieu. Voici ce qui se passe en ce moment-là. Voici ce qu'il est en train de faire. Au lieu d'écouter son cœur, il se parle. Et voici ce qu'il dit. Il dit, David, pense. Il dit, pense à ceci. N'oublie pas ceci. N'oublie pas quoi? Il dit, n'oublie pas qui t'a fait. N'oublie pas qui te sauve. Qui t'a sauvé. Oublie pas. En d'autres mots, l'inquiétude vient quand on écoute son cœur. La paix vient en parlant à son cœur. Mais qu'est-ce qu'on se dit? Pas n'importe quoi. La paix vient quand on raconte à son cœur ce que nous sommes et ce que nous avons en Jésus-Christ. C'est là que la paix vient. D'accord? C'est ce qui se passe. Même chose avec Habacuc. Regardez Habacuc, ce qui va se passer. Habacuc, il dit ceci, il dit, en effet, il reconnaît, ça va vraiment mal là, dans la ville. Ça va archi mal, ça va pas bien. Il l'a dit, en effet. Il dit, figuier ne fleurit pas. Donc, les arbres ne poussent pas de fruits. Là. On a vraiment de la misère à manger. Il dit, la vigne ne produira rien, le fruit d'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture. Les brebis vont disparaître du pâturage. Plus de bœuf dans les étables. Mais moi, je veux me réjouir. Moi, je prends la décision. Je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux être dans l'allégresse à cause du Dieu de mon salut. Ça va mal autour de moi. Il en est conscient. Mais il dit, moi, ma joie, ma paix, c'est dans le Seigneur, je les trouve. Alors, je mets ma confiance en lui. Et on doit se rappeler ces choses-là régulièrement parce que, vous savez, la paix a trois ennemis. Trois choses vont essayer de miner, détruire ta paix. Trois choses vraiment. Ça, c'est les ennemis de la paix. Premièrement, le monde. Et quand on parle de monde, on ne parle pas nécessairement des gens. La Bible, lorsqu'elle parle de monde, elle parle du système du monde, des valeurs. Il y a des valeurs dans le monde qui sont contraires à nous procurer de la paix. Il y a la chair, ta chair, ta propre chair. On parle pas du corps, la Bible, parce qu'elle parle du chair. La chair, elle parle de ses désirs qu'on a, égoïstes en dedans de nous et tout ça, qui veut faire sa première place, avoir la gloire et tout ça. Ça, c'est notre chair. La chair va avoir d'ailleurs, on lit dans Galates, n'est-ce pas? Les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Il y a ta chair qui est un ennemi de la paix. Puis troisièmement, il y a le diable aussi. Le diable, on a vu, hein, on a une série sur le combat spirituel des armes du chrétien. Puis le diable existe. Et si tu ne crois pas au diable, c'est pas dire que tu fais partie de la minorité dans le monde. Là. Parce que les gens croient au diable. En grande partie, ils vont l'appeler différents noms, les forces, etc. Mais certainement, et la Bible nous dit que le diable existe. Et il est là pour freiner, détruire les chrétiens. Il veut détruire ta joie, détruire ta paix. Et une chose qu'il faut savoir, c'est que ces trois choses-là, le monde, la chair, le diable, travaillent ensemble pour miner ta paix. Ça travaille ensemble. Là. C'est toujours là, c'est travailler ensemble. Alors, laisse-moi te donner un exemple. Tu prends la publicité, comme la publicité aujourd'hui, ça, on dépense des milliards en publicité. Écoute, on voit 3000 annonces par jour. Il y a même, je ne sais pas si je vais raconter ça, mais il y a un programme spatial russe maintenant qui a lancé une fusée sur laquelle on avait peint un gros logo de 30 pieds, Pizza Hut. Imagine-toi. Publicité. Là, on est même en train d'explorer la possibilité de placer de la publicité dans l'espace, puis on serait chez nous, là, dans ta cour, l'été, prendre ta liqueur, tu regardes l'espace, puis c'est une grosse publicité. c'est fou, là. Mais savez-vous que la publicité a un effet sur nous autres? Alors ça, c'est le monde. On va prendre le matérialisme, on va te donner, on va dépenser des milliards pour essayer que tu ailles acheter ça, puis c'est encore meilleur. Puis ce que tu prends, le produit que tu prends, pas assez bon, ça te prend ça. Puis on va pousser, dépenser des milliards. Je pense que c'est quoi? C'est 500 milliards. Et on va essayer de t'influencer, te décourager, puis miner ta paix. Et on a découvert maintenant qu'il y a définitivement un lien direct avec notre façon de penser, notre façon d'agir. Alors, voici le monde qui essaie de miner ta paix. Et là, on découvre que les adolescents sont influencés. Les compagnies vont mettre des scènes, vont mettre des allusions sexuelles dans des annonces qui ciblent les jeunes. Et on découvre maintenant avec des recherches à l'université que ça a un impact. Ça l'explique. Il y a un lien avec ces désordres alimentaires et tout ça des jeunes parce qu'ils veulent être comme ces célébrités-là, ces vedettes, ces mannequins qu'ils voient. Et il y a un effet. Donc, ta chair embarque. Tu veux, tu t'acceptes pas. Tu veux être comme ça. Donc, le monde, la chair qui embarque, qui sert de ça. Puis finalement, le diable va certainement se servir de ça pour t'influencer. Et alors, ça l'attaque en même temps. Ces trois choses attaquent en même temps. On a toujours besoin de nous rappeler. Pour avoir cette paix-là, garder cette paix-là, conserver cette paix-là, on a besoin de se rappeler qu'on n'a pas besoin d'acheter ceci ou d'acheter ça pour essayer d'être quelqu'un, puis etc., être meilleur, être ci, être ça. On est déjà accepté par le Seigneur. Le Seigneur nous accepte déjà. Et ça, c'est le message de l'Évangile. L'Évangile dit que nous sommes tellement perdus, imparfaits, pécheurs, que Jésus a dû mourir pour nous. Mais encore que nous sommes tant aimé et précieux à ses yeux qu'il était heureux de mourir pour nous. Désormais, le Père nous accepte pleinement et fait de nous ses délices, non parce qu'on le mérite, mais grâce à Jésus-Christ, grâce à son sacrifice. Donc, pour nous, on a constamment besoin de se rappeler l'Évangile pour essayer de contrecarrer ces efforts du monde, la chair et du diable qui veulent essayer d'influencer notre paix, détruire notre paix. Alors, tu veux conserver la paix? C'est un fruit de l'esprit. Rappelle-toi l'Évangile. Parle-toi. Raconte-toi. Dis-toi de mettre ta confiance en Dieu. C'est ça que nous avons besoin, mes amis. De mettre notre confiance sur le Seigneur Jésus-Christ. Il sait ce qui est bon pour nous. Il sait exactement ce qu'il faut faire. Il a ta vie entre ses mains. Alors, quoi qu'il arrive autour de toi, tout comme Paul qui était en prison, où ça allait vraiment pas bien, son avenir n'était pas rose, et pouvait dire humblement, mais avec sincérité, réjouissez-vous toujours. Apportez vos prières au Seigneur avec action de grâce. Seigneur notre Dieu, il y a des défis dans la vie, Seigneur, des occasions dans nos vies où on se préoccupe, où il y a des circonstances difficiles. On l'a vu cette semaine avec ce qui s'est passé au Parlement. Il y a toutes sortes de choses qui se passent, Seigneur, et qui peuvent facilement affecter la paix que tu veux nous donner. Nous te prions que quoi qu'il arrive dans notre vie, indépendamment, Seigneur, des circonstances inattendues, imprévues, auxquelles on ne s'attendait pas du tout. On te prie, Seigneur, que tu nous donnes de pouvoir garder cet esprit de confiance, de garder confiance, de nous rappeler le beau message de l'Évangile qui nous prouve à quel point tu prends soin de nous. Tu es allé jusqu'à la croix, tu as envoyé ton Fils jusqu'à la croix. Tu nous as prouvé que tu te souciais de nous et que tu nous aimais. Alors, Seigneur, donne-nous d'avoir confiance en toi, de savoir que tu es sage, parfaitement sage, et que nos vies sont entre tes mains. Et quoi qu'il arrive, Seigneur, on peut avoir confiance en toi. Au nom de Jésus, pour ta gloire. Parce que c'est ça que tu veux de nous. Amen.